suite, en fait. Donc, il y a eu une première version assez réduite, c'était en fin 2003. Et une deuxième version plus aboutie, plus conséquente, c'était au printemps 2004. Donc, c'est un projet qui avait été imaginé un peu avant. En fait, au moment de l'émergence au Japon des téléphones mobiles vidéo, donc les téléphones mobiles qu'on connaît maintenant en France, qui viennent d'arriver en France, qui sont arrivés bien sûr plutôt au Japon, et d'ailleurs qui n'ont pas été tout de suite un gros engouement populaire, enfin pour des raisons d'erreur marketing en fait, puisque leur sortie a coïncidé avec la nouvelle génération de consoles de jeux vidéo. Mais enfin bon, ça a pris. Et donc j'avais imaginé justement que l'on pouvait faire un projet avec ces téléphones, justement utiliser leur capacité vidéo, mais tout en ne perdant pas de vue, ce qui est très très important à mon sens, tout en ne perdant surtout pas de vue qu'il s'agit avant tout d'un téléphone. Et en ce sens-là, d'ailleurs, j'aime bien encore aujourd'hui distinguer ce projet qui est fait maintenant il y a quelques années, mais le distinguer par exemple de choses qu'on a vues comme le Pocket Films ou des choses comme ça, qui malheureusement ne considèrent ces téléphones vidéo que comme une petite caméra baladeuse. Et je pense qu'à mon sens, ce qui est intéressant, c'est pas tellement la picturalité des images, même si on peut s'y intéresser, mais plus le fait justement que ce sont des caméras mobiles qui à tout moment peuvent transmettre des images et du son. Donc j'avais imaginé un projet utilisant ces téléphones, mais en fait pas du tout dans l'usage qui était prévu par les constructeurs. Donc à l'époque c'était Docomo qui avait sorti ça, le principal opérateur japonais, puisque l'usage tel qu'il a été pensé par les gens du marketing de chez Docomo et autres après, c'était justement, c'est très gadget à la japonaise, c'est plutôt pour les adolescents, c'est-à-dire qu'on va filmer sa petite amie puis on va envoyer l'image sur un autre téléphone. Alors que le projet que j'avais imaginé, justement, c'était de récupérer ces images, de les sortir, en fait. Voilà, c'est mieux. C'était de les sortir du... Enfin, de les faire circuler, de les faire exister par le réseau téléphonique, mais en fait, à un moment, de les sortir des téléphones et de les récupérer. C'est un peu fort, hein ? Ça va. Voilà. Donc, alors, le projet, comment se présente-t-il ? En fait, c'est un projet collectif. Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'était qu'il y ait plusieurs opérateurs qui se promènent, chacun muni d'un de ses téléphones. Et les séquences sont envoyées sur un serveur. Et donc, sur ce serveur, il avait été développé avec un informaticien qui avait travaillé avec moi, qui s'appelle Thierry Pierre, qui est un ancien hacker repenti, d'ailleurs. Donc, avait, en fait, cassé le codec propriétaire de Docomo, puisqu'en fait on ne pouvait pas en théorie récupérer ces images, on ne pouvait que les afficher sur un autre téléphone. Donc lui avait réussi à casser le codec propriétaire et aussi avait programmé un logiciel de montage automatique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les séquences arrivaient sur le serveur, les séquences étaient automatiquement assemblées en bout à bout dans l'ordre chronologique. Alors, donc tout ceci donnait petit à petit un film se constituer au fur et à mesure de l'arrivée des séquences. Alors, un protocole de travail, donc, de réalisation avait été imaginé. En fait, j'avais pensé ceci, c'est-à-dire que ça soit un projet collectif. Donc, c'est un projet qui était à la fois un projet artistique, un projet pédagogique aussi, dans le sens où, une petite équipe d'étudiants français et un collègue à moi, d'ailleurs, artiste, enseignant, Jean-Claude Ruggirello, m'avait accompagné au Japon. Et on avait travaillé donc avec des étudiants japonais. Donc pour la première version, c'était avec les étudiants de l'université Seika à Kyoto. Et pour la deuxième version, plus aboutie, où là il y avait beaucoup plus de téléphones, où là il y avait un partenariat avec Docomo qui avait prêté des téléphones et avec un crédit illimité de consommation, ce qui était quand même très agréable. Donc là, c'était avec les étudiants de Yamas, de l'Institut Yamas à Ogaki. Et donc, en fait, on avait constitué des équipes mixtes, c'est-à-dire composées au moins d'un Français et d'un Japonais. Chacun de ces petits groupes était équipé d'un de ces téléphones. Et moi, j'étais un petit peu au poste de commande, c'est-à-dire moi, je ne me baladais pas en ville avec un téléphone. Mais par contre, j'avais préparé une liste de phrases, en fait, qui était envoyée par un bon vieux SMS sur ces téléphones. Donc, c'est-à-dire tout le monde recevait ces phrases au même moment. Et les équipes réagissaient comme elles le voulaient, quand elles le voulaient, à ces phrases. Alors il y avait quand même, il ne s'agissait pas juste d'expérimenter la technique, il y avait vraiment pour moi un centre d'intérêt très très précis, qui était la lecture de la ville, de l'espace urbain. Donc c'est pour ça que le projet s'appelle Reading the City, lire la ville. Donc la ville étant une espèce d'objet pas très défini, ou en tout cas multidéfini, dans le sens où n'importe quel, là c'était étudiant en art, peut aborder la ville de la manière qui le préoccupe, c'est-à-dire la ville peut être une préoccupation plastique, la ville peut être une préoccupation sociale, politique, etc. Et c'était un peu cette diversité donc des équipes, des points de vue qui m'intéressaient. Comme chaque équipe était mixte franco-japonaise, donc c'était pour moi dans mon esprit, même si ça n'a pas, en fait, à vrai dire, été tout le temps le cas, un peu une manière d'éviter un truc qui est assez facile au Japon, c'est-à-dire le tourisme, quoi, c'est-à-dire de se focaliser comme ça sur les écritures, soit c'est un peu les particularités locales, un peu trop typiques, quoi, le pittoresque. Voilà. Donc, alors, la série de phrases, en fait, qui n'étaient pas des... qui étaient un peu des... Vous allez en voir, je vais vous passer quelques images. Donc, c'était, par exemple... je vais vous donner un exemple de mémoire qui n'a peut-être même pas existé. C'était, par exemple... une phrase, ça pourrait être, je recherche une, voilà, un ensemble de circulation. Voilà. Donc, par exemple, les équipes recevaient ce genre de phrases, et après, donc, eux étant en ville, faisant ce qu'ils voulaient en ville, eux réagissaient ou pas en envoyant des séquences, en faisant une séquence là-dessus, puis en l'envoyant sur le serveur. Alors, une particularité aussi, c'est que ces téléphones permettent de faire de la vidéo, et donc de l'envoyer, mais permettent aussi de se connecter au serveur. Donc, en fait, les étudiants pouvaient aussi décider soit de tenir compte de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire vraiment des problématiques de montage vidéo, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, mon plan, comment va-t-il se raccorder à ce qui a déjà été fait, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il faut mieux que je le stocke dans le téléphone et puis l'envoyer à un moment pertinent, ou au contraire, ils pouvaient décider vraiment comme ils le voulaient d'envoyer le plan comme ça arbitrairement sur le serveur. Alors, de l'autre côté, donc, il y avait un site web sur lequel le film était visible, en fait, et donc on voyait le film en train de se constituer. Et ça, c'est un peu une notion importante, c'est-à-dire que ce film documentaire, donc, le temps de la réalisation était le même que le temps de la présentation. C'était un film en direct. Donc là, je vais vous en montrer un petit morceau, mais bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a perdu beaucoup de son intérêt. Ce qui était intéressant, c'était de le voir en direct. C'était quand même un événement. D'ailleurs, un événement qui a été présenté deux fois de suite dans deux biennales, en fait. Donc voilà, c'est le projet durait une semaine, hein, durait, enfin, ça dépendait où, 5 jours, durait le temps de la biennale, tous les jours, 24 heures sur 24. Voilà, donc ça, c'est une interface. Donc bon, il y avait sur les côtés, on pouvait lire des petits textes de présentation. Donc là, on va regarder si on ne fait rien, on regarde le film en entier, c'est-à-dire du début jusqu'au point où il en était, donc maintenant, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Voilà, par exemple, un exemple de phrase qui était envoyée en SMS. Voilà, première séquence. Ça, c'était la première séquence du projet. Alors, tout est anonyme, on ne sait pas qui a fait quoi. Mais par contre, en fait, après, donc, il y avait une interface. Donc, vous voyez en bas, donc, ça, ce sont les 4 jours qu'ont duré le projet. Et en dessous, ce sont les séquences, c'est-à-dire chaque séquence commence par une de ces fameuses phrases qui est envoyée. Donc on peut aussi regarder le film de manière non linéaire et accéder directement à telle ou telle, soit journée, soit séquence.
Quelle taille vous voulez de pizza, tout ça. Et t'as une voix complètement bizarre, et il fait oui, d'accord, d'accord. Et à la fin du concert, il arrive avec la pizza.
que je devrais faire.
Magnifique.
Je passe là.
J'explique les trois séquences en fait, c'est parce que c'est Ogaki en fait, c'est une ville où il y a une forte communauté brésilienne, donc c'est pour ça qu'on avait des choses en brésilien, en portugais.
てるだろ。
は？
どうさ取るんだよ。何取るんだよ。
あ、落ちちゃった。じゃあさっきのも大きくできた。クリームフルーツはね、あのフルーツポンチみたいなのに。
L'ensemble est assez long, là on n'en est qu'au deuxième jour. Donc tout est encore en ligne, donc c'est readyvelocity.com. Parce qu'on va... Hein ? Normalement c'est cet après-midi qu'il y a une table ronde. Si, exceptionnellement. C'est des phrases que j'ai écrites, puis certaines à l'avance, certaines ont été improvisées sur place à cause de l'évolution du projet, parce que je trouvais parfois que les réactions n'étaient pas forcément, comment dire, négligées certaines choses, donc voilà, j'ai Les phrases étaient. Par contre, l'ordre dans lequel elles étaient envoyées, puis le. Et effectivement, la rédaction de certaines ont été faites sur place, en fonction de l'évolution du projet.
Sinon, la réduction, on passe de 24 heures aux extraits qui sont disponibles en ce moment.
C'est tout ce qui a été envoyé. C'est tout ce qui a été fait. Il y a. Non, c'est-à-dire que toutes les séquences qu'on voit là, qui sont c'est un grand bout à bout, je ne sais même pas combien il y a de séquences, il y en a, je sais plus. Enfin, l'ensemble, c'est assez long quand même, c'est tout ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun choix, aucune sélection, aucune intervention. D'ailleurs, même des fois, il y a des erreurs, par exemple. Vous avez vu, il y a des séquences en double, elles sont restées en double. Pour moi, c'est vraiment une valeur d'expérience, quoi, c'est-à-dire le. Alors, je ne sais pas, hier, je ne sais plus qui parlait du protocole et de la perversion du protocole. Enfin, moi, c'est une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, je pense que l'intérêt d'un protocole, c'est de s'y tenir, quoi. C'est-à-dire que. Enfin, moi, je m'étais dit, ici, j'ai mis en place un protocole et on joue le jeu, on voit jusqu'où il va. Voilà. Si on commence à se dire, oui, bon, le protocole, finalement, ce serait quand même bien que je vienne arrondir tel angle. Moi, ça me gêne un peu. Donc, quitte à ce que vraiment qu'il y ait des défauts, je pense que malgré tout, ces défauts ont une valeur. Même si, effectivement, le film n'est pas peut-être pas un film regardable au sens d'un film classique, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des longueurs, des choses un peu sans intérêt, des choses hors sujet, mais bon, enfin, c'est la valeur de l'expérience. Et dans ce sens-là, c'est important de laisser toutes les séquences et que tout soit tel que ça a été réalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune reprise de ce film. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je précise bien que ce qu'on voit aujourd'hui, je précise bien ça par rapport à un deuxième travail que je vais vous présenter ensuite, que ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, a une valeur de document plus que de. Enfin, l'œuvre, c'était le temps réel de réalisation. C'était pendant la Biennale d'Ogaki. Ah, donc, je ne pense pas, en fait, à vrai dire, que ce film ait une valeur aujourd'hui au-delà du document. Enfin, pas beaucoup. C'est la réelle durée, c'est le réel ordre de transmission et d'arrivée sur le serveur. Avec les accidents aussi, par exemple, il arrivait des fois que deux équipes envoient à 5 minutes d'écart chacun une séquence, puis finalement, la deuxième équipe, c'est arrivé en premier, on ne sait pas pourquoi, sur le serveur. Donc d'ailleurs, des fois, les équipes ont essayé de se coordonner en disant « oui, vas-y, envoie ça, après moi j'envoie ça », puis en fait, finalement, le deuxième est passé devant, on ne sait pas pourquoi, et on a laissé. La phrase, en fait, est envoyée sur l'ensemble des téléphones qui se baladent et sur le serveur, puisqu'elle sert d'intercalaire comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a d'énormes contraintes liées à ces téléphones. Enfin, moi, ces contraintes m'intéressaient beaucoup, c'est-à-dire le fait, bon, déjà, que c'est quand même de la vidéo de très mauvaise qualité, même si ça fait des progrès spectaculaires en quelques mois entre la première version et la deuxième version. Enfin, la résolution a doublé en. Oui, c'est ça, en 5 mois, 6 mois, la résolution est doublée, surtout la cadence des images aussi avait beaucoup progressé. Mais bon, malgré tout, ça reste des images quand même avec une définition très basse, il y a une compression extrêmement forte, donc enfin, le son n'est pas très bon. Puis de toute façon, même l'objet téléphone ne permet pas même de. Enfin, est difficile à utiliser, c'est-à-dire très souvent on entend les bruits des doigts sur le téléphone, c'est. Les objectifs s'abîment parce que c'est juste un bout de plastique. Enfin, mais tout ça, ces contraintes étaient connues et je pense qu'elles étaient intéressantes dans le film. Et peut-être même justement, elles allaient dans le sens de cet objet fragmentaire qui est le résultat. C'est-à-dire qu'elles incitaient finalement, effectivement, à ne peut-être pas vouloir mesurer l'espace avec ces objets, mais peut-être plus s'intéresser comme ça à des éléments particuliers, comme ça, qui avaient effectivement une valeur. Peut-être plus métonymique, par exemple, qu'effectivement, faire un plan d'ensemble avec ces objets, c'est pas très intéressant. Par contre, aller s'intéresser de près à qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de quelqu'un ou qu'est-ce que la personne sort de sa poche, peut-être ce qu'on ne ferait pas, d'ailleurs, ce qu'on aurait moins tendance à faire avec une caméra DV. Voilà, pour moi, ça allait beaucoup plus dans le sens de ce projet. Et enfin, c'est vrai qu'il y avait, pour moi, il y a une lecture, en fait, très importante pour moi, qui est en aval de ce projet, c'est Rem Koolhaas, en fait. C'est vraiment tout ce qu'a écrit Rem Koolhaas sur la ville. Et, alors c'est vrai que la ville japonaise, enfin, effectivement, ce projet a eu lieu au Japon, bon, parce qu'il y avait la technologie, mais aussi parce qu'il y a la ville japonaise. Et ce projet, à mon avis, aurait beaucoup moins de sens en France, en Europe, dans le sens où, même si aujourd'hui il y a la technologie, pourtant, mais la ville européenne est quand même structurée, elle relate l'histoire, alors que la ville japonaise n'est pas du tout organisée. Elle est beaucoup plus proche en fait de tout ce que Koulas analyse. Et Koulas en fait procède beaucoup justement, enfin c'est mon interprétation, mais par en fait une lecture assez bartésienne en fait. Hein, c'est-à-dire vraiment il va s'intéresser comme ça à des signes comme ça qui sont autant d'indices comme ça d'une situation, d'un usage, d'un voilà. Et donc c'est vrai que pour moi ces téléphones effectivement permettent. Ah pardon, je me rapproche, voilà. Et donc effectivement, voilà, pour moi, ces téléphones permettaient, effectivement, par leur extrême mobilité, par la facilité, enfin l'usage instinctif qu'on peut en faire, et aussi par leurs défauts qui pour moi pouvaient devenir une qualité. Merci. Effectivement, permettaient d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment une espèce de quête d'indices comme ça, plutôt qu'une volonté. Filmique classique d'ailleurs, parce que là il s'agissait pas de vouloir refaire un film classique avec une petite caméra qui tient dans la poche, mais il s'agissait d'inventer ou de voir s'il est possible d'inventer un autre type de cinéma en fait. Ou de... Oui, je comprends, oui. Voilà. Alors, donc en fait, moi je voulais présenter aussi en complément de ceci. Alors, plus rapidement, en fait. Malheureusement, je n'ai pas de traces visuelles. Je voulais présenter un travail sonore, en fait, que j'avais fait. Donc là, c'était avant, toujours au Japon, c'est un peu un hasard, là. Toujours avec une préoccupation urbaine. Donc c'est un travail audio en fait qui s'appelle Ready Mixed que j'ai réalisé au Japon. Alors c'est pas là on est encore moins dans le streaming et tout, mais par contre effectivement ce travail je l'ai présenté en fait en France alors que moi j'étais au Japon et je l'ai présenté. Enfin c'était vraiment pareil. J'étais vraiment sur une idée d'investigation comme ça d'un territoire que j'avais défini, que j'avais délimité. Donc là, c'était une investigation audio, sonore, et c'était un travail de prise de son. Et en même temps, donc, ce travail était exposé, si l'on peut dire, dans une galerie parisienne, Galerie Le Sous-Sol. Alors bon, moi, je ne voulais pas qu'il soit diffusé comme ça, donc en fait, je m'étais mis d'accord avec un ami qui est artiste, et qui est aussi d'ailleurs un artiste de la Galerie Le Sous-Sol, qui s'appelle Nicolas Floch, et Nicolas Floch avait présenté un travail qui est une espèce de mobilier fonctionnel. Et dans ce mobilier, en fait, ce mobilier avait été disposé en lieu comme ça de diffusion, d'écoute, sur lequel on pouvait s'asseoir et sur lequel on pouvait aussi, il y avait une table sur laquelle on pouvait poser un ordinateur. Donc voilà, donc il y avait un ordinateur qui était posé, qui recevait au fur et à mesure de leur fabrication ces fameux Ready Mixed. Donc alors là, il n'y avait pas une fréquence déterminée, c'est-à-dire c'est au fur et à mesure que je les faisais. Dès qu'il y en avait un qui était terminé, hop, je l'envoyais sur cet ordinateur et là, il était écoutable. Il y avait une interface qui était faite, qui se complétait automatiquement au fur et à mesure. Et donc, le public qui visitait l'expo, Floch Maillet, pouvait donc s'installer puis écouter les nouveaux Ready Mixed et les anciens aussi d'ailleurs, puisqu'ils étaient stockés comme dans iTunes. Donc là, le travail était moins lié à une technologie émergente. Par contre, il était toujours lié, ça c'est une chose qui m'intéresse quand même beaucoup, c'est très simple en fait, il ne s'agit pas d'utiliser de la technologie d'avant-garde, mais au contraire d'utiliser du matériel très très simple et du matériel qui est disponible pour tous, le matériel du commerce, enfin, moi ce que j'appelle le Darty, donc, c'est-à-dire c'est tout ce que n'importe qui peut acheter, donc là c'est fait très très simplement, en fait c'est fait avec un petit microphone simple, enfin quand même de bonne qualité, et puis... Et un enregistreur mini-disque. Et donc, c'est la prise de son en mouvement dans l'espace. Donc, alors là, c'est le territoire qui m'avait intéressé. Ce sont des boutiques qui existent au Japon. Dans les grandes villes, il y a des quartiers où il y a toutes les boutiques électroniques, avec des magasins assez insensés. Par exemple, un magasin qui vend des télévisions. Toutes les télés sont en marche, toutes avec le son, toutes sur une chaîne différente. plus le vendeur qui gueule des promos dans un micro, plus des publicités sonores disposées à certains endroits, plus une voix synthétique qui vous souhaite bienvenue quand vous rentrez dans le magasin. Donc ça fait une espèce de masse sonore comme c'est absolument épouvantable. Et donc, moi, j'ai considéré ça un peu comme une espèce de grande table de mixage avec plein de voix. Et mon travail, en fait, consistait avec un micro assez directionnel, justement, à tout en mouvement dans l'espace. Donc, il y a zéro montage, il y a zéro post-production, si ce n'est juste de choisir un début, une fin. Et puis, j'ai un peu filtré, à vrai dire, mais pour remettre un petit peu de dynamique, c'est tout. Donc le travail consistait justement à évoluer donc, en improvisation dans cet espace, comme ça en captant différentes sources, en s'arrêtant sur une, en avançant, reculant, refaisant de l'ensemble, repensant autre chose. Alors c'est un travail qui produit énormément de déchets, de temps en temps il y a des trucs intéressants. Donc j'ai fait un ensemble de Ready Mix, qui sont des petites pièces, je vais vous en faire écouter deux ou trois, ou une ou deux. Et il y avait cette idée qu'ils étaient envoyés régulièrement, comme ça. Peut-être la différence avec Reading the City, c'est que là, le travail fini a un caractère d'autonomie, c'est-à-dire, d'ailleurs j'en ai fait un CD audio, et je pense que c'est un travail qui, d'ailleurs qu'on peut connaître, et sans d'ailleurs connaître, on peut s'intéresser à ce travail sans connaître le protocole de présentation initiale qui était de cette diffusion dans la galerie. Donc, ça, c'était deux exemples, en fait. Alors, pareil, tout est téléchargeable sur un site, si vous ne voulez pas acheter le CD. Alors, c'est e.maillet.free.fr. Et sinon, le CD est achetable via Metamukin. Il n'est pas en vente à la sortie de la salle. Voilà. Donc, après, je voulais vous présenter... Pardon ? Via Metamukin, oui. Il est distribué par Metamukin. Et donc, je voulais terminer par un troisième travail aussi qui a mis en jeu donc, ces histoires de distance, de réseau et de direct ou semi-direct. Alors, ça se passe aussi entre le Japon et la France. Je suis désolé. Alors, c'est un travail, en fait, que j'avais réalisé pendant la Coupe du Monde de football, enfin, celle de 2002, qui se passait entre le Japon et la Corée. Et donc, je m'étais intéressé qu'au versant japonais. Et ce qui m'intéressait, tout simplement parce que je ne connais pas la Corée, puis que là, ça m'intéressait d'intervenir sur un territoire un peu familier, et entre autres les notions d'espace public au Japon. Et justement, je me suis intéressé à comment cet événement, la Coupe du Monde de football, enfin, qui là-bas n'a pas du tout la même résonance qu'en Europe, par exemple, comment cet événement peut transformer l'espace public. Donc il ne s'agissait pas du tout de s'intéresser au football, mais de tout ce qu'il y a autour du football, donc, c'est-à-dire soit dans la rue, soit autour des stades, soit dans des cafés d'ailleurs, en fait, sur des campagnes d'affichage, des choses comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des campagnes d'affichage, mais plutôt comment des quartiers pouvaient être transformés par cet événement. Voilà. Donc, en fait, c'est un travail qui a deux aspects. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail qui a un aspect qui est lié à un protocole de travail, donc de réalisation et de diffusion. Donc, il s'agissait de créer tous les jours une vidéo. Alors, de la créer avec un protocole très, très particulier, c'est-à-dire que c'était de mettre en œuvre, en fait, cette idée d'automédia et de home studio. C'est-à-dire, j'étais tout seul, je faisais tout. Donc, c'est-à-dire tournage, enfin déjà choix du sujet, tournage, montage, trucage, parce qu'il y a un trucage très important dont je vais vous parler ensuite, encodage, streaming et puis diffusion aussi sur un grand écran qui était dans le centre de Yokohama. Donc, c'était quand même un travail un peu lourd quoi, à gérer, mais bon, c'était le jeu. Donc avec tous les jours une nouvelle vidéo comme ça qui remplaçait la précédente et qui était une espèce de journal en fait de la dernière semaine, en fait la semaine de la finale, qui a vu la victoire du Brésil contre l'Allemagne. Et alors il y avait un deuxième aspect, c'était qu'est-ce qu'il y avait dans ces vidéos. C'était en fait donc toujours en tournant sur ces notions entre l'espace privé, espace public, ces vidéos en fait n'allaient pas chercher ça, mais stigmatiser, on va dire, une incursion du privé dans le public. C'est tout simplement la présence des marques commerciales. Donc, en fait, moi, je faisais des vidéos qui témoignaient de certains lieux, de lieux choisis, comme ça, au fur et à mesure de l'actualité de cette semaine de finale. Et en fait, en post-production, j'appliquais systématiquement la mosaïque vidéo. Donc, vous voyez ce que c'est, hein, ce qui sert à brouiller les visages. Et ce qui, au Japon aussi, d'ailleurs, sert à cacher les sexes dans les films porno. Donc voilà, j'appliquais cette mosaïque vidéo sur toute présence privée dans l'espace public que je filmais. Donc, alors que ce soit bien sûr des campagnes publicitaires, mais ça va aussi jusque sur les marques, sur les maillots, sur les sacs. Enfin, c'est vrai qu'il y en a un nombre assez phénoménal. Voilà. Donc alors donc ces vidéos au jour le jour jusqu'à la finale en fait pouvaient être regardées. Alors ben, au Japon, donc il y avait cet écran dans Yokohama. Et ailleurs, il y avait un site donc, qui était dans le centre d'art virtuel de la revue Synesthésie. Donc il y avait un site, Geometrical Abstraction, c'est le nom du travail, donc vous pouvez suivre comme ça toutes les vidéos. Alors par contre, en fait, ce qui était visible, et ça c'est aussi un aspect important, c'est-à-dire que tout mon travail était visible et tout était annoncé. Donc c'est-à-dire mes horaires de travail étaient publics. Donc, alors, on savait que de telle heure à telle heure, je faisais le montage et tout le processus était exposé. Alors là, il était exposé dans un petit musée, en fait, dans une espèce de galerie, mais une galerie non commerciale. dans laquelle j'avais installé un bureau avec l'ordinateur, avec mon matériel pour travailler. Et ça, c'était visible dans le, on va dire, dans la sphère artistique. Et par contre, tout le résultat de ce travail, lui, était diffusé en dehors, était diffusé dans l'espace public, puisque je considère Internet comme un espace public. Donc, je vais vous montrer le site tel qu'il existe encore, mais tel qu'il se voilà, tel qu'il existait aussi au moment, si ce n'est que petit à petit, les vidéos sont venues compléter. Voilà. Donc, alors ça, ce sont les 7 vidéos donc de chaque jour. Hein. Donc, on va pas toutes les regarder non plus. On peut regarder. Alors, je précise le contexte. En fait, c'était la retransmission du match Allemagne-Corée et qui avait lieu en Corée. Et c'était retransmis dans un stade à Tokyo. Donc, ce sont des vidéos sans son. Hein. Donc, en fait, le stade était rempli de Japonais, mais qui s'étaient déguisés à moitié en coréen et à moitié en allemand. Non, ça c'est coréen. Rouge, c'est coréen. Blanc, c'est allemand. On va aller voir les Allemands. Ah, il n'y a rien à voir avec le lieu de tournage. Il était dans le centre-ville de Yokohama. Enfin, c'est dans une espèce de lieu assez bizarre qui est à la fois un débouché du métro, une galerie marchande. Une espèce de grand lieu... comme ça, comme on sait les faire là-bas, quoi, une espèce de lieu bizarre. Des visages brouillés ? Oui, je pense qu'il y avait une casquette ou un bandeau avec marqué Adidas ou je sais pas quoi, ou une marque de bière. Donc l'Allemagne a gagné, hein, comme vous pouvez le voir. Allez, je vous en montre un autre. Je vous montrais le soir de la finale. Donc là, ça avait été tourné au Nakata Café. Alors, Nakata Café, c'était un lieu très branché à Tokyo, qui n'existe plus, qui n'a existé que pendant la Coupe du Monde. En fait, c'est Nakata, c'est le Zidane japonais qui avait ouvert un café comme ça, avec du mobilier de design italien, enfin, un truc très, très chic. Et donc, il retransmettait tous les matchs, bien sûr. Bah, si tu veux, moi je dirais que ce qui a déterminé tout le travail sur les mosaïques, tout ça, en fait, on peut dire qu'il rejoint le protocole de travail dans le sens où il pose la question, bah, qu'est-ce qui est donné à voir publiquement ? Qu'est-ce qui est donné à voir publiquement ? Donc là, en fait, ces mosaïques, en fait, en masquant, elles montrent cette incursion, tu vois, dans l'espace public, de choses d'ordre privé, en fait, bon, qui sont commerciales, et comment, justement, ce qui peut être un événement public, finalement, et se retrouve, enfin, bon, à part faire ce genre de discours, mais comment ce qui était un événement public, finalement, se retrouve marqué, comme ça, je dis pas récupéré, mais marqué, comme ça, par des événements qui ne sont pas du tout d'ordre, par des intérêts qui ne sont pas du tout d'ordre public. Et de la même manière, donc moi, je donnais à voir moi-même dans l'espace public, finalement, tout le processus de travail, toute la chaîne de production, comme ça, de ces images. Quoi. N'importe quel autre événement ? Oui, tout à fait. Oui, bon, là, c'était la Coupe du Monde, en fait. Disons que ce travail s'est décidé à l'occasion de la Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir lieu à l'occasion, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, enfin, un autre événement comme ça qui va passionner les foules et qui va faire que l'espace public va se retrouver transformé simplement parce qu'il y aura une convergence tout d'un coup d'une passion populaire pour une chose et que cette convergence va s'exprimer dans l'espace public tout simplement. Mais aussi parce que derrière, effectivement, il y a aussi des enjeux commerciaux, financiers derrière cet événement, bien sûr. Mais ça, ce qui est très, très lié à la situation japonaise aussi, de toute façon. Où l'espace public, quelque part, est toujours en limite, comme ça, parce qu'il est souvent organisé, justement, par des intérêts qui ne sont pas publics. Voilà, donc c'est un peu cette situation-là, mais c'est vrai, bon, c'est le football, ça aurait pu être, je sais pas quoi, enfin, un autre événement populaire, enfin, en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, je n'ai pas une conclusion synthétique toute prête. Voilà.